Chers amis, c'est notre joie. Je dis notre parce que mon épouse fait équipe avec moi, mais auprès des enfants. C'est notre joie d'être de retour ici. Certains se souviennent peut-être de ma dernière visite. J'étais venu seul. C'était en octobre 1996. Les années passent. Mais j'ose à peine vous poser une autre colle, à savoir à quand remonte ma première visite à cette église, qui n'était pas encore dans ses locaux d'ailleurs. Ça, c'est un peu plus compliqué, hein? Alors j'ai fouillé dans mon registre de voyage et je me suis rendu compte qu'il y a plus de 22 ans et demi exactement, que je visitais cette église pour la première fois. Elle était poste pionnier. C'était les 19 et 20 avril 1980. Voyez, alors ça fait plaisir de voir comment le Seigneur a travaillé aussi depuis. Et je me suis rendu compte tout à l'heure que c'était peu de temps auparavant, cher Patrice, que nous avons fait connaissance, début mars 1980, en Guadeloupe, à Petit Canal, où Patrice, jeune homme, était là aussi à l'occasion d'une série d'études que je donnais dans son église à l'époque. Peu de temps avant de venir donc ici, enfin pas ici, mais dans cette église, pour une première série. Le Seigneur nous a gardés, il a travaillé dans nos cœurs, il a été fidèle jusqu'ici, et nous croyons qu'il sera fidèle jusqu'à notre rencontre définitive avec lui. Et nous allons lire ensemble, et je vais lire pour vous en tout cas, deux passages qui ont été ou lus ou évoqués pour l'un d'entre eux durant les deux précédentes rencontres. Le premier est un verset dans le livre des Proverbes, au chapitre 23 du livre des Proverbes, 23, simplement le verset 26, qui est une invitation, une forte invitation. Proverbes 23, 26. Mon fils, s'il est indiqué ici mon fils, et non mon fils et ma fille, c'est tout simplement parce que le contexte est un contexte extrêmement douloureux, celui de la tentation à la prostitution, à aller vers la prostituée. Le verset 27 l'indique, n'est-ce pas? Donc ça s'adresse d'abord à un fils qui est tenté de donner son cœur à la prostituée. Et Dieu lui dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ne donne pas ton cœur à la prostituée. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Si tu me donnes ton cœur, tes yeux regarderont dans la bonne direction et tu ne te laisseras pas séduire par la prostituée. Et puis un second texte, Romains chapitre 12, cette introduction à la partie pratique de la clé d'or des Écritures, la cathédrale de la foi chrétienne, ce livre que l'homme de Dieu, avec lequel nous ne sommes pas d'accord surtout, loin de là, mais père de l'Église, Bouche d'or, Chrysostome, lisait une fois par semaine pour en être tout imprégné. Et il lisait donc une fois par semaine au moins les deux premiers versets de Romains 12. Je vous exhorte, je vous encourage donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Il est question de forme, hélas, et pas de fond. Ne vous coulez pas dans le moule du siècle présent, dans le moule de Monsieur Tout-le-Monde. Mais laissez-vous continuellement transformer, là c'est le fond, métamorphoser littéralement, transformer en profondeur, transfiguré par le renouvellement de l'intelligence, de la pensée, de votre mentalité, de votre capacité de juger, d'apprécier, de discerner. Ceci afin que vous mettiez à l'épreuve, appréciez, discerniez la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Offrez vos corps, verset premier, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'offrande de la personne, de nos membres, d'offrande visible, sans que le cœur ne soit d'abord mis sur l'autel. Pour bien offrir vos corps, offrez vos cœurs. Un jour, un horloger vit entrer dans son magasin un homme qui, avouons-le, ne semblait pas très intelligent. Cet homme sortit de sa poche un petit papier, soigneusement plié, d'où il retira les petites aiguilles, les aiguilles d'une montre. Et il regarde l'horloger droit dans les yeux et lui dit, « Monsieur, il me faut les réparer. Elles ne marchent plus. » Alors l'horloger est quelque peu stupéfait. Il dit, « Oui, monsieur, c'est bien beau tout ça, mais où est la montre ?»« Il me faut la montre. Je ne peux pas faire marcher les aiguilles sans avoir toute la montre. » « Mais enfin, monsieur l'horloger, la montre n'a rien. Elle va très bien. Ce sont les aiguilles qui se sont arrêtées. Alors, s'il vous plaît, monsieur, réparez-moi mes aiguilles. » Et l'homme était têtu. Et malgré tous les efforts de l'horloger pour lui expliquer, il répétait sans cesse, « Mais ce sont les aiguilles, monsieur l'horloger, ce sont les aiguilles. » Et l'horloger eut beau lui prodiguer toutes les explications possibles et imaginables, il ne voulut rien entendre. « Alors vous ne voulez pas réparer les aiguilles ?»« Mais monsieur, je n'ai pas dit que je ne voulais pas réparer les aiguilles. J'ai dit que pour cela, j'ai besoin de toute la montre. » Et notre homme à l'air bête replia soigneusement ses aiguilles dans son petit papier, sortit du magasin en grommelant et en claquant la porte. Et là, dans la rue, il arrêtait les passants et leur disait, en montrant la boutique de l'horloger, « N'allez surtout pas chez cet horloger, il ne connaît rien à son travail. Il n'a pas voulu réparer les aiguilles de ma montre. » « Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. » Combien nous avons insisté depuis avant-hier soir sur le fait que tout dépend du cœur. Et que parfois nous sommes tellement plus préoccupés par les aiguilles, c'est-à-dire les membres, que par le cœur. Et à cause de cela, nous donnons à notre environnement, à notre famille, aux membres de l'Église, mais aussi au monde qui nous entoure, à notre quartier, à nos compagnons de travail, nous donnons une mauvaise heure. C'est pas d'abord un problème d'aiguille, c'est un problème de cœur. C'est un problème, comme nous l'avons dit, de discipline de la pensée. Pense à ce qui est en haut. Ainsi s'exprimait et écrivait l'apôtre Paul à l'église de Colosse, en Asie mineure, dans une partie de la Turquie actuelle. Pensez continuellement à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. C'était en particulier notre thème d'hier soir. Pensez à celui qui est en haut. Et pensez en haut, notamment par la prière. Lorsque tout à l'heure, votre pasteur m'a remis le programme écrit de ce culte, j'étais très heureux. Parce qu'il avait choisi, sans que nous nous soyons concertés, vous voyez qu'il arrive des moments où la non-concertation est très valable, puisqu'il avait choisi comme lecture d'introduction le thème de notre enseignement au cours de ce culte. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9, qui nous dit en particulier dans les versets 6 et 7, que la paix de Dieu, et notre frère nous l'a rappelé, qui surpasse toute intelligence. Ah, nos amis qui étiez là avant-hier soir et hier soir, pourraient-ils me dire quel est le mot grec? Ah, on a fait du grec, vous vous rendez compte. Qui est ici traduit par le mot intelligence? Nous, on y est encore. Il est partout avec ses dérivés, n'est-ce pas? C'est ce mot que nous avons lu il y a un instant dans Romains 12 au verset 2. La paix qui surpasse toute intelligence, tout ce que nous sommes capables de penser, de concevoir, d'imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées. Et c'est intéressant parce que là, nous avons encore un mot de la famille du « nous ». C'est le mot « noema » et vous reconnaissez le radical « nous » dans le début du terme « noema ». Vos pensées en Jésus-Christ, la paix de Dieu gardera, montera la garde, c'est un terme militaire, c'est intéressant. La paix de Dieu qui surpasse toute compréhension, tout ce que l'on peut concevoir, tiendra garnison, sera une sentinelle, afin que nos cœurs et nos pensées ne s'écartent pas de Jésus-Christ. Ceci, cette promesse, c'est pour ceux qui donnent préférence à la prière sur l'inquiétude, nous dit ce texte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Orienter nos pensées, c'est-à-dire orienter notre cœur, ce quartier général de chacune de nos individualités, orienter nos cœurs, nos pensées dans la bonne direction par la prière pour bannir l'inquiétude. Et vous savez, nous sommes enfoncés dans le marécage du nous parce que, figurez-vous que le mot inquiétude, dans la langue du Nouveau Testament, dans le grec, eh bien c'est un mot dans lequel figure le mot nous. S'inquiéter, le verbe grec, s'inquiéter, très intéressant, merimnao, et dans mnao, vous reconnaissez la fin, c'est à nouveau notre radical du mot nous. Nao, nous. Merimnao, alors meri, vous connaissez meri, un méridien, ce qui divise, ce qui partage. Alors c'est intéressant parce que s'inquiéter, c'est une division de la pensée. Si la nous, c'est la faculté de percevoir, de comprendre, de sentir, de juger, de décider, l'intelligence, la pensée, l'entendement, la mentalité, Méri nous indique que s'inquiéter, c'est une division. C'est un écartèlement douloureux intérieur au niveau de la pensée. L'inquiétude, en fait, est une maladie du cœur. L'inquiétude est une maladie de la pensée. C'est un résultat de l'offensive de l'ennemi au niveau de la pensée. L'inquiétude, c'est une culture de pensée fausse ou inutile qui s'entrechoque en nous. L'inquiétude, c'est une tempête dans le domaine de nos pensées qui dérive par rapport à Christ. L'inquiétude, c'est un virus qui attaque nos pensées et les détourne de Christ. Nos pensées s'entrechoquent, elles sont en guerre l'une contre l'autre et en guerre avec Christ. L'inquiétude, c'est une sorte de fixation même de la pensée. Nous aurions pu en parler très longuement. Quelqu'un a donné avec beaucoup de justesse cette définition de l'inquiétude, écoutez, un petit ruisseau de crainte qui fait des méandres dans l'esprit jusqu'à creuser un canal dans lequel sont drainées toutes les autres pensées. Et nous retrouvons curieusement, pour ceux et celles qui étaient présents hier soir et avant-hier soir, cette question fondamentale de l'ornière des pensées. Les personnes qui cultivent l'inquiétude, parce qu'elle passe plus de temps à regarder en bas qu'en haut, creusent des ornières d'inquiétude dans le domaine de leur pensée. C'est-à-dire que tout le monde finit par les trouver inquiètes. On dit, oh, cette personne, elle a l'air toujours inquiète. Elle a l'air toujours angoissée. Et ce texte de Philippiens 4 nous souligne que l'inquiétude joue sur le caractère. Que votre douceur, ou encore que votre amabilité, soit connue de tous les hommes. L'inquiétude chasse l'amabilité, dit le verset 5. Et au verset 4, il nous est dit que, indirectement, que l'inquiétude chasse la joie. Parce que c'est dans le Seigneur qu'on se réjouit. Et comment se réjouir dans le Seigneur autrement que en entretenant avec lui un dialogue, je dirais, permanent, une intimité continuelle par le biais de la prière. Ainsi donc, l'inquiétude chasse la joie, la patience, la courtoisie, la paix, la sérénité de l'âme. L'inquiétude déstabilise, c'est une maladie du cœur. Et je pense à la parole de ce puritain, cet homme de Dieu du XVIIe siècle, qui écrit ceci, « Le vent fait tourner les ailes du moulin, mais celui-ci demeure à la même place, tel un emblème du contentement. » Lorsque les vents de la Providence font fluctuer vos biens et fortunes, le cœur se cale sur un saint contentement. D'autres hommes, agités et tremblants à cause du souci, ressemblent au mercure. Mais l'esprit content dit, ô Dieu, mon cœur est affermi. N'est-ce pas ici une portion du ciel ? Quelle parole vraie ! Le remède donc à cette maladie de cœur, au-delà de celui préconisé par le célèbre humoriste Mark Twain, mais qui ne voulait pas de Dieu dans sa vie et qui disait « Expulsez tout souci de vos pensées, tirez-les par les oreilles, par les talons ou de n'importe quelle façon, c'est ce qu'un organisme peut faire de plus sain. » Pourtant, que de soucis n'a-t-il pas connu ce Mark Twain dans sa propre vie ? Eh bien, le remède, il est au verset 5. Dans une pensée clé, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Et le mot utilisé, traduit par proche, peut avoir deux significations. Il peut signifier soit proche dans le temps, soit proche dans l'espace. Mieux encore, il peut signifier l'un et l'autre. Et je crois que c'est ici le cas. Le Seigneur est proche, c'est-à-dire qu'il revient bientôt. Il revient rapidement. Et en attendant de revenir bientôt et rapidement, il est proche. C'est-à-dire qu'il est à proximité. Comme si l'apôtre Paul voulait dire aux croyants de l'église de Philippe, inquiets, mes amis, ne réagissons pas comme s'il était loin, inactif, insensible, apathique, incapable, irresponsable, sourd. Non, il est proche. Il est intéressant de constater qu'à la fin du chapitre 3, nous avons évoqué ce texte hier soir, il y a opposition entre ceux qui, au verset 19, ont pour Dieu leur ventre, qui mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, qui ne pense qu'aux choses de la terre. Et puis nous, et je veux parler de nous aussi, pas seulement des Philippiens, nous qui sommes citoyens des cieux, quelqu'un a traduit une colonie des cieux, citoyens des cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qui transformera, qui transfigurera, là encore, le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par l'énergie, le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir à toute chose. Pensez en haut, pensez à la cité céleste, à la Jérusalem d'en haut, à celui qui revient bientôt. Je pense à La parole du célèbre revivaliste Moody qui disait « Je ne prêche jamais sans penser que peut-être ce sera mon dernier sermon avant le retour du Seigneur. C'est peut-être notre dernier culte ici-bas, chers amis. » Un commentateur britannique bien connu disait « Je ne commence jamais ma journée de travail sans me dire que je devrais peut-être l'interrompre pour en commencer une autre avec lui. » Et ce n'est pas à la mort que je pense, ajoute-t-il, mais à lui, à Jésus. Et attention, parce que Jésus l'a dit lui-même dans Matthieu 24, 44, le Fils viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors que notre cœur vive dans cette attente du retour du Seigneur. Il est proche. Et parce qu'il est proche, parce qu'il est à proximité, et parce qu'il revient bientôt et rapidement, il nous demande de développer dans notre cœur des pensées de qualité. C'est ce que dit la suite du texte, à partir du verset 8. Au reste, frères, et vous avez toute une série de mots que nous lirons en conclusion, et après cette série de mots qui forment d'abord le programme de la pensée, pour ensuite présider à notre comportement visible de tout un chacun, il dit eh bien tout cela, que tout cela soit l'objet de vos pensées. Manière de traduire. Le nous n'est pas présent ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est remplacé par un terme qu'on utilisait jadis à cette époque dans le domaine de la comptabilité. Comme si c'était un trésorier qui était en train de gérer un certain nombre de valeurs. Ou comme si c'était un informaticien ou quelqu'un qui se serve de son ordinateur et qui introduise, n'est-ce pas, dans le disque dur, toutes sortes d'informations de qualité. Stocké dans votre ordinateur des informations de qualité. Voilà comment nous pourrions traduire. Ou encore, porter à votre actif, en termes comptables, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Mettez-le sur votre compte. Mettez-le dans la mémoire de votre ordinateur. C'est le même terme qui reviendra dans 1 Corinthiens 13, 5, lorsqu'il est dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. On a généralement très mal compris ce texte. Puisqu'à cause de cela, même dans l'église de Jésus-Christ, parfois, on nous dit, il ne faut surtout pas juger, parce que la Bible dit qu'il ne faut pas soupçonner le mal. Ce n'est pas ça ce que le texte a voulu dire. Parce que le disciple de Jésus-Christ, il juge de tout. Il doit en permanence évaluer, discerner, avec cette particularité qu'il juge en jaugeant, c'est-à-dire que dans juger, il y a le A de l'amour. Ce texte dit autre chose, dans 1 Corinthiens 13, 5. L'amour ne comptabilise pas le mal. Voilà ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que le membre d'église, pour ne parler que de lui, dans le cadre de ce culte et de cette vie d'église, ne se permet pas d'avoir un petit carnet dans sa poche et de s'asseoir dans un coin de l'église d'où il voit tout l'auditoire et où il prend des notes en disant « Celui-ci, il a bâillé au mauvais moment. L'autre, il a discuté avec sa voisine pendant que le prédicateur parlait. » Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que vous avez des mentalités et des cœurs qui ont tellement de mal à accepter d'être transformés et qui creusent des ornières dans le domaine de la pensée parce qu'ils sont toujours en train de traquer les fautes chez les autres. Alors l'amour ne traque pas les fautes chez les autres. Il n'est pas toujours en train de fouiller en grand inquisiteur pour pouvoir condamner du haut de son 31 orgueilleux spirituel, n'est-ce pas ? Alors après ce que nous avons dit, et en nous appuyant sur cette parole d'un théologien écossais du 19e siècle qui dit ceci, la sainteté ne consiste pas en des spéculations mystiques, des ferveurs enthousiastes ou des restrictions superflues. La vraie sainteté consiste à penser ce que Dieu pense et à vouloir ce que Dieu veut. C'est-à-dire, une fois de plus, elle démarre dans le cœur. La vraie sainteté part du cœur pour aller vers le corps, visible de tous. Et elle ne part pas de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. En nous basant sur cette nécessité d'avoir donc des pensées de qualité, une question se pose. C'est une interpellation. De quoi nourrissons-nous notre mémoire profonde? De quoi nourrissons-nous nos pensées? Tout simplement parce que ce que nous écoutons, ce que nous lisons, ce que nous regardons joue un rôle énorme dans l'élaboration de nos pensées. Nos pensées contrôlent nos actes et nos actes affectent nos pensées. C'est-à-dire qu'il y a dans nos vies une sorte d'interaction permanente entre le monde du cœur, de la pensée, et le monde du comportement et de l'activité. J'en veux pour preuve cette petite histoire authentique. Même si elle apparaît tellement particulière, mais elle se comprend. C'est l'histoire du gérant d'une bijouterie qui se marie. Et on en arrive dans la cérémonie de mariage à l'instant tellement affectif de l'échange des anneaux. Il glisse l'anneau au doigt de celle qui devient son épouse et il doit, à ce moment-là, dans la tradition de cette église, prononcer une formule. Et il est mal à l'aise, il est plein d'émotions, on le comprend, et il a un temps d'hésitation qui fait que le pasteur, plein d'amour à son égard, lui souffle le début de la phrase. Et il lui dit donc, le pasteur, « avec cet anneau ». Et le visage du fiancé, sur le point de vivre son union, s'illumine et il dit « avec cet anneau, nous donnons une garantie écrite en rappelant au client que le prix lui sera remboursé s'il n'est pas satisfait ». Il était bijoutier. Et pendant toute la semaine, n'est-ce pas, il avait utilisé cette formule. Et je me souviens d'un président de culte qui, dans une église que nous visitions, après avoir toute la semaine travaillé dans l'hôtellerie, a commencé sa présidence par une de ses bévues qui nous a beaucoup amusés parce qu'elle était directement en rapport avec son système de pensée tel qu'il l'avait vécu tout au long de la semaine écoulée. Et c'est sorti là, n'est-ce pas, comme un cheveu sur la soupe. Et rouge de confusion, cet ami dit, mais vous comprenez, pendant toute la semaine, j'ai fait ceci dans l'hôtellerie, ça vient de ressortir. Je pense à l'histoire qui s'est déroulée par une nuit sombre et pluvieuse, lorsqu'un voyageur de commerce eut une crevaison d'un pneu, donc sur une route solitaire. Il est en plein désarroi, il n'a pas de cric, il fait nuit, il pleut. Il aperçoit une petite lumière un peu plus loin, là-bas, sans doute une ferme. Et il décide donc de s'y rendre à pied. Et tout en s'approchant de cette ferme, son esprit travaille, son cœur travaille, ses pensées travaillent. Et il se dit intérieurement, « Oh, ce fermier aura sûrement un cric. Mais est-ce qu'il va se lever pour venir répondre à la porte ? Et s'il se lève, il va probablement être furieux d'avoir été dérangé. Et il va m'invectiver, il va me dire, mais pourquoi me sortez-vous du lit au beau milieu de la nuit ? Et voilà qu'au fur et à mesure que notre ami brode en pensée les réactions possibles, voire probables du fermier, eh bien il s'énerve, il est de plus en plus furieux intérieurement. Et il se dit, « Ouh, ce fermier n'est qu'un vieux lourdeau égoïste s'il refuse de m'aider. » Et voilà que pendant que ça gronde dans ses pensées, il arrive finalement à la maison, il est frustré, il est trempé, il a froid, il frappe à la porte à grands coups, et quelqu'un ouvre la fenêtre et crie, « Qui est là ? Vous savez bien qui c'est ?
le voyageur, le visage rouge de colère. C'est moi, et vous pouvez le garder, votre creed, je ne l'emprunterai pas, même si c'était le seul qui existe dans toute la région. Et il repart.
Voyez combien les pensées affectent le comportement. Et combien on peut broder dans ce domaine. Quelqu'un écrit très justement, les actions coupables sont précédées par des fantasmes honteux. Et l'excitation de l'imagination est due à l'indiscipline des yeux. Voyez, imagination, les yeux. La vivacité de l'imagination est un don de Dieu à l'origine de toutes les œuvres d'art et de bien des entreprises humaines. Elle contribue à la densité de la vie humaine, mais elle requiert d'être utilisée de manière responsable. L'imagination est une faculté que nous pouvons laisser nous avilir et dont nous pouvons mésuser, que nous pouvons mal utiliser. En effet, il ne paraît guère possible que quelqu'un cède à l'immoralité sans que ses yeux soient à l'origine de sa passion. À l'inverse, un homme ou une femme ne devient maître de son comportement et de ses actes dans le domaine sexuel qu'après avoir le contrôle de ses yeux et de son imagination. Alors, il y a des textes très forts dans l'Ancien Testament. Je pense à un texte que nous avons rappelé hier soir, qui a été lu avant-hier soir en introduction, dans Proverbe 4, n'est-ce pas ? Lorsqu'il est dit dans Proverbe 4, verset 20 et suivant, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Encore une fois, voilà une des thérapies de la bonne santé, n'est-ce pas ? De la bonne santé dans le domaine des pensées, n'est-ce pas ? Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Pense en étant centré sur la parole de Dieu. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Et immédiatement après, garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu veux que ton corps soit en santé, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et alors après, c'est intéressant, l'auteur de ces proverbes va passer les organes en revue les uns après les autres, n'est-ce pas ? Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi. Puis il est question des pieds, n'est-ce pas ? Considère le chemin par où tu passes, que toutes tes voies soient bien réglées, ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Voyez, les interactions entre le cœur et tous les organes sont là, visibles, extrêmement sensibles. Regardez au chapitre 6 pour vous montrer l'importance de ce thème. Proverbe 6, verset 12. L'homme pervers, l'homme tordu, l'homme inique, verset 12 du chapitre 6, marche, comment ? La fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux. Il parle du pied. Il fait des signes avec les doigts. Pourquoi ? La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement, il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Et puis curieusement, au milieu, hein, c'est le cœur. Comme dans une centrale atomique, n'est-ce pas ? Le cœur. Le cœur qui médite des projets iniques. Alors vous aviez les yeux, la langue, les mains, puis on arrive au centre, le cœur, et puis ensuite les pieds qui se hâtent de courir au mal, et le faux témoin, la langue, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Voyez comment, même là, dans ce proverbe, tout est centré autour du cœur. Interaction permanente. Proverbe 16, 30, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. J'en ai dit quelques mots depuis avant-hier soir, quand nous avons évoqué tout ce domaine des fantasmes, où toute une partie de la psychologie moderne nous invite fortement à penser librement. Nous pouvons penser librement et n'importe
n'importe quoi. Si vous voulez que pendant ce culte, vous puissiez voir un film porno, allez-y, c'est dans votre tête que ça se passe. Il semblerait que cela ne doive pas affecter nos relations avec notre prochain, ni l'usage que nous faisons de notre corps, de nos capacités, etc. N'est-ce pas ? On nous dit de telles bêtises ! Et nous sommes tellement bombardés par les médias de ces insanités et de ces inepties qu'elles finissent par entrer dans nos vies à nous qui sommes disciples de Jésus-Christ. Mais pourquoi n'allons-nous pas simplement vers les Écritures pour relire le fait que celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, et nous savons très bien ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? C'est clair, cette allusion. Celui qui se mord les lèvres tout en fermant ses yeux, n'est-ce pas, a déjà consommé le mal. D'où la nécessité impérieuse d'un filtrage de ce qui entre dans la tête par les yeux, par les oreilles, et de ce qui en sort par la bouche et par chacun de nos actes. Et on ne peut pas lire, mes bien-aimés. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9. Sans s'interroger sérieusement, ce n'est pas un passage lénifiant. Il veut être sécurisant, c'est vrai. Mais il nous oblige à nous interroger avec honnêteté, avec intégrité de cœur, avec droiture, avec loyauté. Que lisons-nous ? Qu'écoutons-nous ? Que regardons-nous ? Et se pose ici le problème de nos choix culturels, de nos choix de détente. De quelle sorte de pensée ensemençons-nous le jardin de notre cœur ? Et j'utilise volontairement le terme pensée en faisant le jeu de mots entre la fleur et la pensée. Faut-il revenir sur le pavé que j'ai jeté hier soir dans la mare en évoquant la télévision ? Qui façonne de nouvelles mentalités ? Qui façonne de nouveaux modes de pensée, ou plutôt des modes de non-pensée ou de pensée déviée. Grâce à la passivité, à l'anesthésie de l'intellect, de la faculté de réflexion, de discernement. Pensez à la banalisation du crime, de l'immoralité, du mensonge. Pensez à la multitude d'invitations à l'impureté, à l'excitation sexuelle, à la violence et j'en passe. Lors d'une série tenue en région parisienne durant ce printemps, le pasteur de l'église à laquelle je m'adressais me disait lui-même qu'il était horrifié de ce qu'il voyait lors de ses visites pastorales dans les foyers de l'église. Les émissions qui étaient en cours lorsqu'il entrait dans le foyer. Et ce que les enfants regardaient. Mes amis, c'est l'heure de nous réveiller. Si nous n'avons pas la capacité de gérer l'usage de la télévision, mieux vaut nous en séparer. Parce qu'une question se pose. Notre cœur est-il une poubelle ? Un dépotoir ? Une décharge publique ? Est-ce que nous croyons à ce mensonge qui nous est répété de jour en jour, dont certains spécialistes reviennent tant c'est grave ? Et qui consiste à dire « vous pouvez regarder n'importe quoi, vous pouvez regarder de la violence ». Ça n'affectera pas votre comportement. Sauf, et vous le savez, qu'il y a quelques jours à peine, une bande de jeunes dans un collège lance un bocal contenant de l'acide, s'inspirant du drame du 11 septembre. Alors, est-ce que vraiment nous avons soif et le désir de mettre notre cœur sur l'autel ? Pas le porte-monnaie d'abord, même si l'offrande à sa place est importante. Dieu veut d'abord le cœur. Et le Seigneur ne regardera pas votre offrande d'un œil favorable si votre cœur est dominé par des choses odieuses. Si vous vous repaissez de violence, d'impureté, de mensonges, banalisés par les médias. Et là, je ne fais qu'évoquer la télévision. Nous pourrions parler d'Internet et de tous les CD-ROM qui se vendent en quantité industrielle sur le marché mondial dans nos pays. Quel contrôle exerçons-nous sur ce que nos enfants lisent, regardent, entendent ?
Nous qui avons enfourché le même cheval que ce monde, c'est-à-dire qui ne concevons plus comme normal le fait qu'une épouse responsable et mère de famille, selon les Écritures, se doit, sauf dans certaines situations où vraiment il est absolument impossible de faire autrement, se doit de donner la priorité absolue à sa vie de famille, à l'éducation des enfants. Mais ça, c'est une idée qui est très mal acceptée dans le milieu évangélique. Nous nous sommes ravalés au rang de ce monde et il devient odieux d'oser dire la conception que Dieu a de la famille, du rôle des parents. Mais comment voulez-vous que des parents s'occupent de leurs enfants quand tous deux travaillent et sont complètement débordés? Dites-moi, quand vous avez un jardin que vous le cultivez, les carottes, ça pousse tout seul? Les radis, ça pousse tout seul? Est-ce que vous n'avez pas entretenu votre voiture depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans? À quand remonte votre dernière vidange graissage? Et alors il paraît, dans notre monde moderne, que les enfants, ça s'éduque tout seul. Oui, il suffit un tout petit coup, par-ci, par-là, on jette un coup d'œil, puis ça pousse tout seul, et ça pousse bien! Ah, vous ne vous attendiez peut-être pas à ce message. Mais, mes amis, je ne peux pas lire Philippiens 4 autrement que de cette manière. Si nous lisons ces passages simplement pour endormir notre conscience, parce que c'est beau, Philippiens 4, c'est une véritable symphonie, n'est-ce pas? Oui, mais y a des épines avec les fleurs de Philippiens 4. Je ne vous donnerai pas tous les échantillons que j'ai avec moi sur les insanités actuelles, n'est-ce pas? Le dernier film qui a produit un tollé au Festival de Cannes, passé en avant-première, pour qu'ils produisent un tollé dans ce milieu-là. Alors j'ai un extrait de l'interview réalisé auprès du metteur en scène. Quand vous filmez la scène de viol, puisque tout le film est centré là-dessus, hein, vous posez-vous des problèmes moraux? Oh, il faudrait d'abord savoir où sont vraiment le bien et le mal. Ce sont des notions très personnelles. À partir du moment où je décide de filmer cet acte qui laisse des traces terribles chez les gens, pourquoi l'évacuer sous prétexte que le spectateur ne pourrait pas le supporter? Je ne voulais pas banaliser le viol. Le moteur de cette scène, c'est Monica. Avant de tourner, je lui avais dit que la séquence de viol devait durer le plus longtemps possible. Écoutez ce qu'elle a répondu. Elle m'a répondu d'accord. Mais je veux me battre jusqu'au bout. Elle l'a fait et a donné à ce viol son caractère guerrier. Moi, à la caméra, j'ai trouvé ça flippant. Il n'y a rien d'incitatif, menteur. Contrairement à d'autres films pernicieux, il n'y a que son film à lui qui n'est pas pernicieux. Mais mes amis, regardons dans nos vies. Ce que nous regardions il y a 10 ans en arrière sur le petit écran et qui nous faisait bondir, frémir. Nous nous précipitions pour écraser le bouton si nous n'avions pas envie d'enfoncer toute la machine. Maintenant, on a pris l'habitude. C'est pas vrai? Est-ce que nous sommes prêts à regarder le problème en face? Ou est-ce que nous allons nous gargariser de vie chrétienne évangélique et avoir un jour un réveil extrêmement pénible devant la sainteté de Dieu, mes amis? Attention, hein. Moi je crois que Dieu est saint. Alors bien sûr, je dois ajouter, en allant vers la conclusion, que nous ne pouvons pas systématiquement échapper aux agresseurs de la pensée. C'est vrai que nous ne sommes pas capables d'empêcher les pensées de toutes sortes, y compris les pensées impures, de se présenter à la porte de notre esprit. C'est vrai. Par contre, nous pouvons les arrêter sur le seuil. Nous pouvons faire le tri entre les bienvenues et les interdites de séjour. Je ne suis pas coupable de la pensée mauvaise qui arrive, mais je suis responsable de l'accueil que je lui réserve. Et là, ce texte nous dit de la manière la plus claire que nous sommes invités, c'est une injonction de Dieu dans les Écritures, à être inhospitaliers à l'égard des pensées impures, à l'égard de toute pensée qui n'est pas pensée divine. C'est Luther qui a repris à saint Augustin, Augustin d'Hippone, cette pensée « Je ne puis empêcher les oiseaux de voltiger au-dessus de ma tête, mais je dois les empêcher de nicher dans mes cheveux. » Et dans cet ouvrage intéressant, dans lequel il faut faire du tri, l'imitation de Jésus-Christ, dont nous ne connaissons pas l'auteur, il est écrit ceci, « La source de toutes les mauvaises tentations, c'est l'inconstance de notre cœur. » Repoussons l'ennemi dès que nous l'avons entendu frapper. C'est ce qui fait dire à un certain poète, résiste dès l'abord, plus tard, il est trop tard. D'abord une simple pensée, puis une imagination plus vive. Ensuite une complaisance, le mouvement déréglé, enfin le consentement. Telle est la tactique de l'ennemi rusé quand on ne lui résiste pas tout de suite. Plus on est lâche, plus on devient faible contre un ennemi qui se fortifie de jour en jour. Mais bien aimés, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Satan s'intéresse beaucoup à nos pensées, parce que c'est à ce niveau-là que se jouent les grandes victoires et les défaites. Nous devons donc avoir une stratégie claire pour résister aux assauts des mauvaises pensées. Et je termine avec cette stratégie, rapidement dite. En soulignant tout d'abord que la meilleure façon de se défendre contre ce qui est laid, contre ce qui est corrosif, négatif, avilissant, c'est de ne pas s'y plonger volontairement. Alors mes amis, je voudrais vous inviter, vous encourager, je dirais même vous supplier, quand nous rentrons dans nos maisons, de faire le nettoyage de notre bibliothèque. Je pense à ce savant indien, c'est une histoire vraie, qui s'est écroulé dans sa bibliothèque après avoir cherché un ouvrage. Et il s'est écroulé tout simplement parce qu'en prenant l'ouvrage, il a été piqué, mordu par un petit serpent parmi les plus venimeux du monde. Il s'est écroulé, mort. Et pour moi, c'est un symbole. Il y a des ouvrages qui tuent. Je suis frappé de voir le nombre tellement restreint d'ouvrages qui aujourd'hui soient propres et non destructeurs. Et circulant depuis 22 ans dans tant et tant de foyers, dormant dans des chambres où se trouvent parfois des bibliothèques, j'ai été X fois sur le point de faire des infarctus du myocarde, croyez-moi, en voyant dans des foyers chrétiens le type d'ouvrage sur les étagères. Si le Seigneur Jésus ne peut pas lire certains livres, ne les lisons pas. Et ceci est vrai pour notre vidéothèque, notre cassettothèque. Ne soyons pas comme Lot. Pourquoi donc est-il allé se fourrer au cœur de Sodome? Vous savez quel a été le résultat? C'est qu'à quelque part, le cœur de Lot a été pollué par Sodome. Et finalement, ça s'est très mal terminé avec un double inceste. Un Lot enivré dans une caverne et qui a une relation sexuelle avec ses deux filles. Deuxièmement, il nous faut refuser d'entrer dans la tentation. Est-ce que nous attachons une grande importance à cette prière, le Notre Père ? Prière dans laquelle nous avons précisément cette phrase « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation ». Combien de fois ne l'ai-je pas fait, cette prière ? Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. N'acceptons pas que le diable mette un pied dans la porte pour essayer de s'infiltrer quand même. J'ai sous les yeux le commentaire d'une bande dessinée humoristique concernant une dame ou une demoiselle qui a du mal à suivre son régime pour sans doute devenir mannequin. Et il y a 10 dessins qui illustrent son problème lorsqu'une pensée de manger s'offre à elle. Premier dessin, je vais faire un tour, mais je ne vais pas aller près du magasin. Dessin numéro 2, je vais aller près du magasin, mais je ne vais pas y entrer. Dessin numéro 3, je vais entrer dans le magasin, mais je ne vais pas aller près des rayons des gâteaux. Dessin numéro 4, je vais regarder les gâteaux, mais je ne vais pas les toucher. Dessin numéro 5, je vais les toucher mais pas les acheter. Dessin numéro 6, je vais les acheter mais pas les ouvrir. Dessin numéro 7, les ouvrir mais pas les renifler. Dessin numéro 8, les renifler mais pas les goûter. Dessin numéro 9, les goûter mais pas les manger. Et dessin numéro 10, manger, 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 manger. Hein, on entre. Vous comprenez? Et je suis persuadé que certains d'entre nous ici savent ce que ça veut dire, parce que je suis persuadé qu'il y a bien quelqu'un qui fait un peu de régime, quelque part, hein, parce que ça se prend vite le poids, et il arrive un moment où c'est dangereux de surcroît. Cela veut dire qu'il nous faut résister, apprendre à résister, résister au nom de Jésus, chasser l'ennemi, utiliser cette arme à double tranchant, que nous devrions connaître, avoir appris à manier, nous devrions être les champions du monde, du sabre, de l'épée, etc. Et pareil, la France s'est toujours bien défendue dans ce domaine. Pourquoi dans l'Église on se défend si mal? Envoyer à la figure la puissance des ténèbres qui a été vaincue, les versets appropriés pour cesser d'entrer dans la tentation. Et puis, disons-le, sans nous y arrêter, fuir la paresse. Parce que c'est avec la paresse que Satan aime agir. L'adultère s'est développé dans la pensée d'un certain David parce qu'il n'était pas là où il aurait dû être sur le champ de bataille. Ça a commencé là, dans sa tête, après la sieste, en fin d'après-midi. Et Bathsheba s'est retrouvée dans son lit. Ce qui a fait dire à Martin Luther, lorsque je suis assailli par des tribulations, je me précipite parmi mes cochons au lieu de rester tout seul. Le cœur de l'homme, s'il n'est pas occupé à quelque chose, donne accès au diable qui s'immisce en nous et apporte avec lui toute une armée de mauvaises pensées et de tentations et de tribulations qui nous oppriment. Mes amis, les nuits où on tarde à se coucher, tout comme les matinées où l'on tarde à se lever, ce sont là les moments les plus propices à l'attaque de la puissance des ténèbres au niveau des pensées. Que de chutes ont eu lieu à ces moments. Et enfin, simplement, nous devons passer les pensées qui cherchent à pénétrer notre esprit au crible de Philippiens 4, 8. Et je le lis et je m'arrête là. Voilà le crible. Tout ce qui est vrai. Pas du toc. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable, plein de dignité, noble. Tout ce qui n'est pas vulgaire, ça veut dire qu'on bannit le langage ordurier de notre temps. Tout ce qui est juste, conforme à la justice. Tout ce qui est pur, innocent, chaste. Tout ce qui est aimable, c'est-à-dire tout ce qui est recommandable. Tout ce qui est mérite, tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux, ce qui est de bonne qualité, ce qui est de qualité, d'excellence et digne de louange, eh bien, ceci, mettez-le sur votre compte. Mettez-le en mémoire, dans votre cœur. Et alors, le Dieu de paix sera avec vous. Nous voulons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que la révélation écrite, la Bible, ta parole est vivante. Ce n'est pas simplement un message qui endort, qui lénifie. Non, Seigneur. Tu nous places devant de grandes réalités, des questions essentielles. Et tu l'as fait durant ces trois rencontres. Merci de nous avoir toi-même parlé de nos cœurs, de nos pensées. Et de ces interactions entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'invisible et le visible, entre le caché et le vu et l'entendu. Ô Seigneur, travaille en nous pour que nous offrions nos personnes tout entières en commençant par mettre notre tête sur l'autel. Tu en es digne parce que toi tu as tout donné. Nous te bénissons, ô Dieu, parce que tu nous parles aussi de ton cœur dans les Écritures. Merci pour ton cœur. Merci pour tes pensées. Merci pour ta volonté. Merci pour ton affection. Merci pour la beauté de ton comportement. Merci pour le don du Seigneur Jésus. C'est vrai, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, a été et est et sera toujours l'objet de tes pensées. Nous voulons te ressembler. Merci pour ta grâce, ton secours. Pour cela, mais nous voulons t'obéir. Dans le nom de Jésus.